Toute culture est un balcon sur le vide, écrivez-vous. Nous nous parlons de balcon à balcon. Cette citation du très bel essai Our en poésie, qui est paru en 1980 de Salas Tétier, pourrait, me semble-t-il, indiquer la tonalité générale de cette œuvre vouée tout entière au dialogue entre deux langues, l'arabe et le français, mais aussi deux cultures et deux héritages, au carrefour desquels Salas Tétier habite en poésie depuis bientôt 50 ans. Avec Adonis, autre grand poète biculturel d'origine syrienne et réfugié au Liban, puis à Paris, situé au même carrefour esthétique et dont Salas Tétier a préfacé le livre des migrations en 1982, lui aussi, Salas Tétier s'est engagé toute sa vie sur un double plan poétique et politique. Poète diplomate comme Paul Claudel ou Saint-Jean Perse, Salas Tétier incarne par excellence ce pont entre les cultures du nord et du sud de la Méditerranée qui nous est plus que jamais nécessaire pour tenter de dépasser les méfiances, les ignorances réciproques, pour tenter envers et contre tout de chercher obstinément une passe ou des passerelles possibles entre monde arabe et monde occidental, et cela malgré ce brouillard de cicatrices qui marque à la fois, pour Salas Tétier, l'histoire douloureuse de son pays, le Liban, et le dialogue entre les cultures qu'il réunit en lui-même. Salas Tétier est donc né à Beyrouth en 1929, à l'époque du protectorat français sur le Liban, dans une famille de la bourgeoisie sunnite. Et l'arabe est sa première langue, mais très vite son père, enseignant, linguiste et déjà poète lui-même, veille à ce qu'il apprenne le français dès l'âge de 4 ans, puis au collège protestant français de Beyrouth et au collège jésuite Saint-Joseph de l'université de Beyrouth. C'est dire que vraiment, il est entré en culture double tout de suite. Parallèlement, ce père lui transmet une solide culture arabo-musulmane qui détermine à jamais l'identité double qui caractérise le futur poète. Il a été marqué par l'influence de deux maîtres, Gabriel Bounour, cet occidental asiatisé, comme vous l'appelez, qui est le premier de ses maîtres spirituels, et Georges Chéadé a aussi également été de ses proches, un poète magnifique, très très important, libanais, avec lequel il se lie d'amitié jusqu'à sa mort en 1988. Et puis le deuxième maître de Salas Tétier, c'est Louis Massignon, l'orientaliste Louis Massignon, qu'il rencontre à l'école pratique des hautes études et au Collège de France. Massignon qui a consacré un livre au mystique Al-Halaj, très grand mystique de l'islam, et étudie en parallèle les mystiques musulmanes et chrétiennes, comme Salas Tétier le fera lui aussi plus tard. Dans La parole et la preuve, en 1996, il confessera « Pour moi, la poésie, c'est Héraclite, Maurice Sève, Hölderlin, Novalis, Mallarmé, bien sûr, et Rimbaud, et aussi, dans la tradition arabe, Al-Haj, Rumi, Nifari ou Al-Mutanabi, à savoir tous les grands noms de la poésie mystique arabe. » Car, écrit-il encore, les mystiques rencontrent en chemin la formulation esthétique, les poètes rencontrent l'obsession mystique, les uns et les autres se croisent à un carrefour. Il fait partie de la première équipe des Lettres Nouvelles, importante revue créée en 1953 par Maurice Nadeau, et publie une première version de son petit ouvrage Le Voyage d'Alep au Mercure de France, donc la revue du Mercure de France. Et Paris donc devient le deuxième pôle, mais finalement le pôle principal de son milieu littéraire. Il fait la connaissance de Pierre-Jean Jouve, André-Pierre de Mondiargue, Yves Bonnefoy, André Dubouchet, Michel Deguy. Mais aussi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de Zhao Rumki, de Pierre Alchinski et d'Anthony Tapies. Revenu à Beyrouth, il fondera L'Orient littéraire et culturel, supplément hebdomadaire du quotidien politique de langue française L'Orient, qu'il dirige jusqu'en 1961. C'est donc quelqu'un qui s'engage à tous les niveaux dans l'écriture et dans la politique de son temps et dans le monde de son temps. C'est dans ces mêmes années 1960 qu'il entre dans la carrière diplomatique, donc Salas Tétier a été un grand diplomate au service de son pays, et il occupe successivement divers postes, conseiller culturel du Liban à Paris et en Europe occidentale, délégué permanent du Liban à l'UNESCO, président du comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la restitution des biens culturels à leur pays d'origine. Et il devient ambassadeur du Liban de 82 à 87. Il est alors secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Liban en pleine guerre civile. Donc le plus surprenant avec tout cela, c'est qu'il arrive parallèlement à développer une œuvre très importante, d'une grande ampleur, plus d'une douzaine de recueils depuis l'eau froide gardée en 1973, et de nombreux essais en prose. Aujourd'hui, à la retraite, il continue à écrire et à voyager sans relâche. Il sera en juin à Beyrouth pour un grand colloque de 3 jours qui va lui être consacré au département de langue et littérature française de la faculté des lettres de l'Université libanaise de Beyrouth. Et en février 2013, il vient de me dire que la Bibliothèque nationale à Paris lui consacrera une grande exposition. C'est vous dire que nous avons un très grand honneur. Vraiment, il nous fait un très grand honneur d'être là. Je voudrais terminer en disant que non seulement il est écrivain, non seulement il est diplomate, mais qu'il a traduit aussi, par exemple, Khalil Gibran, et qu'il est traduit dans une vingtaine de langues, au moins. Son œuvre lui a valu d'être récompensée par le Grand Prix de la Francophonie de l'Académie française en 1995, et il a reçu le titre de doctorat honoris causa à l'Université Michel de Montaigne de Bordeaux en 2008, et j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de Montaigne chez vous, qui est Montaigne qui a grandi au fond entre le latin et le français, hein, 2 langues maternelles voulait son père, et puis vous, c'est un petit peu l'arabe et le français qui vous ont tout de suite fait en quelque sorte penser double. Il n'est d'arbre que déterminé par un terreau, et il n'est d'arbre que déterminé contre ce terreau qu'il analyse, simplifie, absorbe, épuise et transforme. Notez-vous dans Our en poésie. Entre pour et contre, entre, disons, Mallarmé poussé à la limite et la luxuriance de l'héritage de la grande poétique arabe, entre abstraction et énigme, entre sensualité heureuse et orientale et hantise du vide et de la mort, mais aussi entre le « non » de Michaud, pour qui toute poésie se fait contre la poésie, et le « oui » à cette tradition à la fois assumée et revisitée, réinventée du monde arabe, vous trouvez une voie qui est tout à fait à vous et unique. Voilà, je voudrais dire que les œuvres de Salah Tétié sont parues en bouquin chez Lafont en 2000. C'est un livre considérable qui est une très belle approche de l'œuvre en prose ou de l'œuvre des poèmes, en un lieu de brûlure. Et je voudrais juste vous dire qu'il y a là une table de livres et qu'à l'issue de cette soirée, de cette rencontre, vous pourrez, si vous le souhaitez, acheter des livres et les faire dédicacer par Salah Tétié. Voilà, je cède la parole à Martin Rueff qui va nous présenter la thématique de l'œuvre et quelques grands axes dans cette œuvre.
Voilà, ces suggestions, donc, je les ai placées sous un titre qui rassemble 2 motifs chers à Salah Tétié et qu'on trouve avec une fréquence significative dans son œuvre, la neige et la lampe. La neige et la lampe. Tétié, poète libanais, Tétié, poète français, poète de l'autre langue et de l'autre de la langue. Tétié, le rimbaldien, le mallarméen. Tétié, le passeur, le traducteur, mais aussi Tétié, le critique, l'essayiste. Et il a dit souvent la grandeur de l'essai, je le cite, il faut essayer, il faut à tout prix essayer. Tétié, l'ami des poètes, proche de plusieurs générations du grand lyrisme français, depuis Bonnefoy et du Boucher. Tétié proche des grands peintres. Tétié le diplomate, dans la lignée des Claudel et des Saint-Jean de Perse, le conseiller culturel et le représentant de l'UNESCO, l'ambassadeur du Liban, l'homme aux vastes carrières, pour parler comme Chateaubriand, autant de figures que les spécialistes de la vie poétique se complaisent déjà à distinguer en Salah Tétié. Il passe son œuvre au crible, à la recherche de césures et de patrons, qu'ils viennent de la poésie ou de la tradition mystique. Il procède à la généalogie et au tri des lignées. Procédant par secteur et jugeant comme l'époque le sérieux à l'aune de la spécialisation, il s'expose, me semble-t-il, puisqu'il fragmente, à manquer ce qui fait précisément l'unité et la vigueur d'une écriture et doit répondre à ce qu'une pareille œuvre comporte de permanent, d'essentiel et de fécond. Si ces spécialistes savaient mieux lire, on leur opposerait volontiers le post-scriptum de la vie d'un homme, et je demanderai tout à l'heure à Sarah Sétier si le titre qu'il a choisi pour cette préface doit quelque chose à Ungaretti. Je cite Sarah Sétier. Toute vie suppose, exige, leur venue, une épitaphe et un post-scriptum. Je ne connais pas l'épitaphe et ne la connaîtrai jamais, mais puisque le moyen m'en est encore donné, voici mon post-scriptum, l'équation vie égale poésie, et bien évidemment la mienne, depuis toujours. C'est-à-dire que je ne souhaite pas opposer vie et poésie, que la première m'apparaît le nid de la seconde, et qu'aussi bien c'est la poésie qui donne à la vie des ailes. Des ailes, c'est-à-dire un espace, c'est-à-dire une direction, toutes les directions à la fois, c'est-à-dire un sens, tous les sens possibles. Mais, et c'est peut-être le principal argument en faveur de la vie en poésie, celle-ci, la poésie, on arrive à ramener toutes les directions à une seule, tous les sens déployés au seul sens qui vaille. N'opposons donc pas la poésie et la vie, mais disons avec Sarah Sétier que c'est la poésie qui fait l'unité de la vie. Car finalement, elle est l'unité aux multiples synthèses, celle du sensible et de l'intelligible, celle du sens et des sens, le lieu où, comme l'aime à enseigner ses maîtres mystiques, se rejoint ce que tout sépare. Il serait bien sûr impossible et inconvenant, surtout devant lui, de prétendre disserter sur la poésie de Sarah Sétier, car évidemment, on ne monnaie pas l'ampleur dans l'urgence. Mais il n'est peut-être pas impossible de vous inviter avant lui à sa lecture en précisant quelques éléments de sa poétique. Depuis donc L'eau froide gardée, publiée en 1973, Sarah Sétier, s'ils viennent depuis le rappeler, a publié une douzaine de recueils, dont je fais la liste. La mort abeille, fragment, obscure lampe de cela, en 1979, inversion de l'arbre et du silence, 80, prix Max Jacob en 81, lettre coupée, suivie de colombe aquiline, 83, l'autre côté brûlé du trépur, la brûlure est un des motifs dont Pierre Brunel rappelle dans sa préface qu'il est dominant dans cette œuvre, 92, Nuages avec des voix, 95, Dormition de la neige, 96, Si respirer, 2001, Fiançailles de la fraîcheur, 2003, Brise et attestation du réel, 2003 aussi, Bois des cerfs, Fata Morgana en 2004, Matière en 2005, et Dans le miroir des arbres en 2011. Une vie de poème, une vie de poésie. Mais de quoi est-elle faite donc cette vie des poèmes de Sarah Sétier? On n'aurait pas de mal à soutenir, et peut-être que les titres déjà vous ont alerté, que le poème de Sétier est, selon une tradition française, parmi laquelle on pourrait compter aussi Bonnefoy, Jacoté, Duboucher, est phénoménologique. C'est-à-dire, pour le dire de manière non technique, qu'elle offre le dire des phénomènes, leur diction. La poésie de Sétier est une poésie de l'élément, de l'élémentaire. C'est une poésie de la présence, mais d'une présence à laquelle on pourrait appliquer ce que Sétier dit de Saint John Perse dans un hommage absolument remarquable. Je le cite, donc c'est un texte que vous avez écrit dans Les Parasites de l'improbable, en hommage à Saint John Perse. La plus vaste création persienne est là, dans ce dialogue et ce questionnement. Pourquoi ce qui a été n'est plus? Pourquoi ce qui est, bien que signé d'un signe, d'un absolu, est-il énigmatiquement voué, malgré le rêve de l'homme, son ambition, sa nostalgie, son entêtement, aux marques d'une faillite inévitable? Donc phénoménologie de la présence, mais marquée par une faillite inévitable, et jour après jour, à la déperdition de ce qui fut, prélude à la propre perdition de l'homme. Ce qui n'est pas sans rappeler la formule célèbre d'Aristote, selon laquelle le temps est facteur de génération et de corruption, mais un peu plus de corruption. C'est Aristote qui dit ça. Malone, corruption, plus de corruption. Poésie de la présence, d'accord, mais dans l'imminence de son retrait, car là où le monde se présente, il se retire. Dans sa grandeur donc, élémentaire, élémentale, dit Brunel, dans ses lumières violentes et douces, dans la neige et le vent, dans l'épreuve du corps, Sétier coule sa langue, moule sa poésie, fait se lever un monde où, comme le dit Bonnefoy dans un texte qu'il lui a consacré, il compose une tapisserie dans le vent. Alors de cette poésie si ample, j'offrirai volontiers un aspect schématique tenant à quelques propositions simples, en fait trois propositions simples, et puis on écoutera le poète. La première est que la poésie de Stettier enveloppe, et c'est son signe majeur sans doute, une véritable cosmologie. Une cosmologie qui porte sans crainte la question de la beauté du monde. Sa question, que reste-t-il de la beauté naturelle? Comment la dire? Comment la faire exister dans la langue? Cette question, c'est la sienne, et on peut dire que depuis ses premiers recueils, il n'a de cesse de tenter d'y répondre. C'est la poésie de la rivière, c'est la poésie de la lumière, c'est le poème du blé, le poème de l'herbe, hein, qui est un des motifs dominants de votre œuvre, hein, l'herbe comme ce, justement ce brin de croissance, hein, ce brin de nature qui ne cesse de croître, hein, comme le disait Claude Simon en citant un écrivain qu'on n'entend pas grandir mais qui est là. Et c'est surtout le poème de la neige. Et j'aimerais dire en quelques mots, hein, les neiges de Stettier. Il y a chez vous, hein, une beauté de la neige comme état de la matière, dans un double spectacle qui est celui de sa chute. La neige est alors rideau, pétale, blanc, mur blanc, tempête au parvis de l'épousée, hein, c'est une formule, l'épousée, que vous aimez beaucoup, une surface de trop grande clarté. Elle est un drap, un écran, un visage, une ligne blanche d'horizon, une espèce de virginité. La neige, univocité étale et pureté purifiante, où étalée. Elle est alors rêve d'effacement, offrande écartée au soleil, condition de la lumière aveuglante, et d'elle, plus de tout autre spectacle, il faudrait dire, c'est la mort d'un soleil qu'on ne peut regarder en face. Ou peut-être quelque chose, je vais citer un poème qui va dans ce sens, comme l'espace pur désorienté, le fond comme figure, la figure comme fond. Je citerai un poème du début de votre œuvre, qu'on trouve à la page 83 de votre anthologie. Oliveraie définie par la neige, attachée à ce peu, aube arrachée aux racines, comme arbre d'aucune sorte de qui s'est approché l'approche, en compagnie d'aucune nuit, dénonçant par l'olivier le peu et formulant la perfection neigeuse en profondeur absoute. La profondeur absoute. Mais chez vous, la poétique de la neige ne doit rien ignorer non plus de ce que l'esprit humain peut y investir. L'image offerte, je prends la neige comme motif, mais on aurait pu prendre l'eau, évidemment, le vent, l'arbre. Mais la neige est aussi l'image offerte à la méditation métaphysique d'une espèce de blanc de néant. La neige constitue chez vous une de ces images sans motif où le fond devient tout, comme une espèce d'exposition métaphysique de l'espace. La neige comme spectacle pur de l'espace, comme exposé métaphysique. Une espèce d'offrande pure du « il y a », de cette « il y a » avant tous les objets, à l'allégorie de l'être comme fable du néant, image, symbole du silence, du temps suspendu, du temps qui passe suspendu. On pourrait d'ailleurs approcher ces méditations sur la neige, hein, de quelques formules de Lévinas sur le « il y a ». La neige, donc, votre nuit blanche. La deuxième proposition concerne votre érotique. Je crois qu'on pourrait faire volontiers de vous un grand poète érotique, à condition de préciser que la femme est toujours chez vous, et dans une tradition qui est plus que millénaire, le lieu même où s'incarne le tout de l'amour du monde. Et j'aimerais méditer ici, mais je ne vais pas le faire dans le détail, le motif de la poupée auquel vous donnez une résonance inattendue. Mais permettez-moi de citer au moins deux poèmes très beaux qui donnent un aspect, me semble-t-il, très sensible de votre érotique. Alors le premier, je le prends dans l'autre côté brûlé du trépied. Cette femme, son obscur visage, aux tables de la neige, ses longs violons brûlés jusqu'aux racines, tout cela qu'elle regarde, serrant le nom du jour entre ses jambes et le ruissellement de l'innommé, le désir autour d'elle, aux dents, aux vieillissantes, qui doucement luisait dans le terrible, tout cela qu'elle regarde, au point inimagé de l'esprit dans le jour, ses mains, ses mille mains et leurs phalanges, distraites et sûres, sur le sexe noir de l'homme, lui est dehors, il chasse la lune et les loups, il mange de la viande, elle a entre les jambes un haillon rouge, un baiser rouge et rouge, elle est dehors aussi, elle est dedans, la langue de cela qu'elle est la mange, anthropophage, eau dévorant le non physique, son visage est de verre très fin quand il explose. Alors, il faudrait commenter tout ce jeu d'images bouleversant. Hein, et puis un autre poème que je prends justement dans Lettres poupées. Une femme s'est mise à nu par poésie, elle va blanche au linge de sa mort, le sexe enténébré de solitude, lumière pâle de l'esprit en elle, le soufre de sa grâce est une tourterelle inespérée, et les torrents la déshabillent, comme une étoile en palpitation de fille, et son sein noir, enfantin, opprimé. La troisième proposition, et donc la dernière, concerne la nature profondément hymnique de votre poésie. Que chez vous, la fin dernière de la parole, soit la célébration, rejoint évidemment un thème récurrent dans la tradition poétique de l'Occident. Dans cette tradition, l'hymne constitue la forme typique, spécifique de la célébration. Je rappellerai volontiers que le terme grec « hymnos » dérive de l'acclamation rituelle qui était criée pendant les mariages, « hymen, hymen », souvent suivi d'ailleurs par « hymenaios ». L'hymne, dans cette tradition, ne correspond pas, et ça va bien avec votre poétique, me semble-t-il, à une forme métrique définie, mais depuis ses plus anciennes attestations, dans ce qu'on appelle les hymnes numériques, cette forme se réfère essentiellement à un chant en l'honneur des dieux ou du divin. Tel est, dans tous les cas, son contenu dans l'hymnologie chrétienne, qui va reprendre justement les motifs de l'hymen grec, qui va connaître une remarquable floraison, au moins à partir du IVe siècle, en Syrie et au Liban. Chez les latins, notamment, Grégoire de Nazianz et Synésius, dans l'Église orientale. On pourrait rappeler d'ailleurs la formule que Isidore en donne, quand il dit « L'hymne est le chant de ceux qui louent, parce qu'en grec il signifie louange. En effet, c'est un poème de joie et de louange, mais au sens propre, on appelle hymne qu'un chant contenant la louange du divin, de Dieu. S'il contient une louange, mais qu'elle n'est pas celle de Dieu, ce n'est pas un hymne. Si on y trouve la louange de Dieu, mais qu'elle n'est pas chantée, ce n'est pas un hymne. En revanche, s'il contient la louange de Dieu et est aussi chantée, c'est un hymne. » Eh bien, il me semble que votre poétique est bien celle de l'hymne, dans un sens cependant particulier, qu'il faudrait sans doute détailler, puisque votre hymne reprend les caractéristiques de l'élégie et les détourne à la faveur de votre cosmologie. Alors, on pourrait d'ailleurs montrer que ce que vous faites est le symétrique de ce que fait Rilke. C'est-à-dire que Rilke, dans les élégies, récupère l'hymne, et vous, dans vos hymnes, vous récupérez l'élégie. Mais je passe peut-être sur des détails qui ennuieraient notre public. En un mot, avec vous, Céleste Étier, l'hymne reprend ses droits, parce que vous avez su retordre l'hymne vers l'élégie et l'élégie vers le cosmos. C'est donc sous la lumière de votre lampe hymnique que vous nous éclairez ce soir, et je suis fier de vous passer la parole.
Merci infiniment à mes trois amis qui se sont exprimés dans cette prestigieuse université de Genève qui m'accueille en même temps que m'accueille la maison genevoise de la littérature et de Jean-Jacques Rousseau. C'est dire que je suis très heureux d'être à Genève, ville que je connais, parce que je suis diplomate, et que très souvent, je suis venu à Genève pour y défendre des positions et des propositions de paix. Je ne sais pas si Genève a adopté, fût-ce inconsciemment, la devise des hippies des années 70. Je ne sais pas si Genève recommande de faire l'amour. En tout cas, Genève a toujours recommandé de faire la paix plutôt que la guerre. Et de cela, cette ville mérite d'être glorifiée pour les siècles des siècles, comme auraient dit mes maîtres jésuites. Pour me présenter directement à vous à travers ces présentations remarquables, remarquables parce que elles sont rapides et que dans leur rapidité même, elles ont touché des points essentiels de mon chemin intérieur et de mes formulations. Pour me présenter donc à vous, je vais vous lire le premier poème d'un de mes recueils, Brise et attestation du réel, qui, dans son édition de tête, a été accompagné par un peintre avec qui j'ai travaillé et que j'ai beaucoup aimé, qui est Anthony Tapies. Le poème s'appelle « Bois des cerfs », des cerfs. Le penser, l'arbre, l'impensé, puis cela est retombé comme une robe, arraché à ce qui fut, rendu à la splendeur matérielle, le corps qui fut rêvé avant d'être pensé, avant d'être saisi, avant d'être. Un temps, il fut lumière, un temps, il fut. Je poursuis ma promenade, ma vaine promenade sous les arbres, la gorge nouée et terriblement couverte. Puis quelque chose, un non-jardin arrive. On sort dans la cohue des jours, leurs lambeaux de couleur aux grilles dorées de la nuit, nuit extrême. On a laissé son chapeau sur la commode, on est seul dans la pauvreté du monde. Puis une grande neige incertaine est tombée à son tour, broutant, brûlant les racines de l'herbe et voilant, au cœur de la maison, les carreaux d'un soleil lacéré. Or cela, tout cela est cœur. Je ne dirai rien à ton corps, mon amour. Maintenant que le temps a passé, que les batailles de l'azur sont finies, et seulement il y a dans le ciel maintenu quelques nuages encore indemnes, indemnes, mon amour, autant qu'inutiles, et traînant encore pour leur compte et rêvant parmi les araignées. Cela n'est pas de la poésie, mon amour. Cela est. J'ai ôté une fois pour toutes les hannetons de ma chemise. Je regarde la mer comme un homme qui lui tourne le dos, tandis qu'il est rejoint par la mer et son sel, par la brume ensoleillée de la mer, et par cela que Victor Hugo appelle les moutons sinistres de la mer et leur laine. Je traîne avec moi dans ma pensée un bestiaire, toute une foule, animaux de théière et enfance, violons, fleurs et branchages. Et je ne cherche pas à savoir où j'en suis de ce qui fut longtemps cela que j'ai appelé le dehors, de ce qui fut longtemps cela que j'ai appelé le dedans. Entre l'un et l'autre, enfin, je suis assis, sur une chaise, assise elle aussi, assise dans un univers en expansion et qui ne sait pas où il va. Mes pieds, beaux pieds, illuminés par le soleil, et ma tête, vieille tête aux mille griffures, tête de chat labourée, tête de chien, gardé par l'ombre de la vigne immatérielle comme un tonneau de vin mort dans un caveau d'oubli. Pourtant, un mot ne m'a jamais quitté, le mot « brûlure », avec moi en Inde et en Chine, avec moi dans les deux Amériques, en Orient, au Yémen, en Perse, à Moscou, en Sibérie, dans les Scandinavies, en Allemagne, dans les Italies, les Espagnes, en France aussi, à Paris, dans les bibliothèques et musées, dans des avions aussi vers l'Afrique ou dans des trains vers les allantissements du Nord. Ce mot m'a persécuté, me persécute toujours, à travers mille livres, mille tableaux, des yeux fous. J'ai aimé et je suis triste. Et la vie n'est plus qu'un dernier verre avec de l'eau, à demi bu. Et ce qui reste est pour le somnifère. Il ne faut pas l'avaler tout de suite. Il faut savoir profiter de l'ultime infini oiseau du jardin et du dernier rebond de la lumière avant la nuit, qui sera nuit d'automne. Rosier, je vous ai tant aimé, chère d'aurore et d'épine, et voici que par la fenêtre ouverte, vous me regardez mourir en souriant. Mes chats vous sont dus, ô rosier, eux aussi, qui vous ont tant aimé, pour un éclair entre vous de couleur, un papillon ou un bourdon enchaîné à votre parfum. Je ne sais plus où sont les tables. De la vie, j'ai mangé le pain et le fruit. J'ai bu le vin et l'eau. J'ai caressé la lune et j'ai brûlé au soleil ma main droite, me rappelant avec cœur et un peu d'emphase le dit grec, le port de la femme est une fente avec des rives poilues. Port féminin, je t'ai traversé à mon tour et j'ai jeté en toi l'ancre et j'ai dormi. Maintenant que j'ai lu bien des livres de poésie, la plupart sans intérêt, les ai-je lus, et que bien des corps jadis aimés, adorés, s'en sont allés vers la pourriture. Je reste ici avec mes mains ouvertes où ne viendra pas s'apaiser la colombe, colombe en qui je ne crois plus, crottée, crotteuse, et je demeure ainsi, mains ouvertes, attendant mes longs amis disparus. Ils sont partis, me laissant leur tas de mots, leur parapluie, et le reflet de leurs lunettes, à moi qui ne vois presque plus, diabète, hernie, et cela dans le ventre qui nourrit de mystérieux crapauds, et rien ne monte vers le cœur sinon une libellule qui un jour se transformera en épingle. Le penser, l'arbre, l'impensé, comme une locomotive entrant en gare et la fin de la vie. Elle a traversé des pays, des villes, des bois amoureusement mouillés, et maintenant elle vient dormir près de moi endormie, et sur le cheval de ma tête s'est déployé le bois des cerfs, bêtes effrayantes d'être si poursuivies. Nous allons parler de poésie. Nous allons parler de poésie sous un titre que j'expliquerai en cours de route à un moment donné. Poésie nudité. Toute la civilisation, écrit Flaubert, est une entreprise contre la poésie. Flaubert veut dire par là que la culture a une vocation institutionnelle en quelque sorte, et qu'à un moment donné, toute culture s'achève en académisme, alors que la poésie reste, dans la langue et dans l'imaginaire des hommes, le jaillissement créateur perpétuel. Je crois en effet que la poésie, en s'opposant à l'institution, rebondit selon sa propre dynamique et que sa vocation est de présenter un visage lustral, infiniment vulnérable et sensible, au vent nouveau qui monte de l'angoissant présent et de l'inquiétant futur. Elle renouvelle la langue tout en accueillant des modes de sentir et de penser inédits, puisque, par nature, les choses réelles, entre guillemets, sorties de leur langue traditionnelle, sont inédites. René Char le dit à sa façon magnifique, à chaque effondrement des preuves, le poète répond par une salve d'avenir. Je crois que l'homme est un tâtonnant, quelqu'un qui cherche sa direction et le sens de ce qu'il est dans l'incertitude où chacun, vous, moi, est plongé. Les choses ne sont pas simples, ni l'homme non plus, à l'intérieur de ce monde qu'il est lui-même. Où trouver le sextant et la boussole qui permettraient de se repérer dans le labyrinthe qu'il nous faut traverser matériellement, intellectuellement, spirituellement, durant le très court laps de notre respiration sur Terre. La langue qui définit, qui distingue, qui identifie, qui nous permet de nous parler les uns aux autres et de partager l'expérience, la langue est, chargée d'intuition, l'un de nos guides. Face aux religieux, qui lui aussi est le plus souvent institution, la langue de poésie, riche de tout un acquis personnel, extérieur et intérieur, autorise le lever du sens et porte, sur le sentier obscur de notre traversée de la vie, la lampe, à la fois obscure et claire, de celui-là. Sens du monde et de notre être au monde. La poésie est tout à la fois découverte et mémoire, laboratoire et conservatoire. Elle élabore et simultanément elle garde, elle inscrit et elle maintient. Mais d'aucune façon il ne saurait s'agir, dans son cas, de se constituer en musée. Le conservatoire vivant qu'est la mémoire est tout le temps en état de cristallisation, mais aussi de modification et de fluidification, comme tous les processus de métamorphose qui définissent le vivant. qu'on se rappelle les beaux vers de Jules Supervielle au sujet de cette métamorphose permanente, vers que je tire de son recueil « Le forçat innocent ». Ces jours qui sont à nous, si nous les déplions pour entendre leurs chuchotantes rêveries, ah, c'est à peine si nous les reconnaissons. Quelqu'un nous a changé toute la broderie. C'est aussi la raison pour laquelle une poésie venue de loin dans le temps ou dans l'espace nous parle et continue de s'adresser à nous directement. Parce qu'elle nous parle, cette poésie, fût-ce à travers l'écran de la traduction, parce qu'elle nous parle de quoi ? De ce que nous connaissons le mieux, la vie, notre vie, l'amour, les permanences, la mort, et sur ces permanences, je reviendrai un peu plus loin. Le poète a le sentiment que ce qui est vécu par lui dans l'exaspération de sa solitude est communicable. Parce qu'au niveau où cela est vécu, se trouve la nappe d'eau, une et multiple, des émotions et des significations où tous viennent puiser. Dégager dès lors le signe qui traduit et enferme cette expérience devient un acte accompli au nom de tous. Ce que je vis, dit le poète, vous l'avez vécu vous-même, ou bien vous le vivrez un jour, ou bien vous êtes apte à le vivre. Je ne m'exprime, puisque j'ai l'audace de m'exprimer, que pour servir par ma langue de révélateur d'une situation humaine tout à la fois spécifique et générale. J'ai, pour le dire, cette situation, un certain pouvoir sur des mots qui vous appartiennent autant qu'à moi, et c'est la raison pour laquelle il convient que je vous restitue ces mots qui sont notre bien partagé, qui sont aussi notre bonheur ou notre malheur également partagé. C'est dans ce sens que je veux comprendre, autant que celui de complicité condamnable, que je veux comprendre l'injonction de Baudelaire au lecteur, qu'il appelle mon semblable, mon frère, dès le seuil des fleurs du mal. L'instinct du poète est là sans doute essentiellement dans l'affinement d'une sensibilité qui, quoique lui étant propre, n'en est pas moins une ouverture vers les autres et une façon de les ramener de soi, le soi du poète, à leur soi propre, ainsi tendrement illuminé ou brutalement bousculé. Le poète est celui qui formule, à travers des mots puisés dans son expérience personnelle, la tragédie inimitable de chacun ou l'entrée de chacun dans le rayonnement de l'être. Aujourd'hui, il faut bien l'admettre, la poésie est occultée, absentée du cercle littéraire et social, contrairement au rôle qu'elle a pu jouer au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, elle n'a plus vraiment d'impact sur la majorité des lecteurs. Je suis très heureux que vous soyez là. Je suis très heureux pour moi, mais je suis très heureux pour vous aussi. Et que vous soyez là est sans doute la preuve que vous êtes aussi des quêteurs de sens, des quêteurs de ce sens difficile qui, quelquefois, parvient à filtrer à travers l'obscur. Dans des sociétés moins évoluées scientifiquement et plus attardées économiquement que les sociétés dans lesquelles nous vivons, la poésie reste une vocation majeure de l'homme, là surtout où il y a cause et problème. Le poète a encore un statut social souvent privilégié dans les pays du tiers-monde. Il n'en demeure pas moins que la poésie, même dans les sociétés avancées, continue, qu'on le veuille ou non, d'être l'exploratrice du monde intérieur et du monde extérieur, du monde intérieur de l'homme, du monde extérieur de son séjour, ainsi que du domaine immense qu'est l'inconscient, producteur de fulgurations intuitives et d'images. Chez les poètes les plus exigeants, l'art du poème, dans son inventivité et dans sa rigueur, se dresse comme un rempart contre la détérioration de la langue et sa ruine. De toute façon, il ne faut pas que la parole se referme sur elle-même et sur sa seule dictée interne. Je veux dire qu'il convient que cette parole aille de plus en plus vers les hommes, vers leur écoute. Il existe un noyau central de l'homme, mystère ou secret de notre condition. La poésie gère tout ce qui, dans l'homme et dans la langue, constitue le noyau dur de ce secret. Elle est, face au secret matériel de l'univers et de la vie que la science tente de percer, celle qui gère tous ces autres secrets intimes dans lesquels nous sommes tous impliqués. Tout secret sollicite de notre part un questionnement. Nous voulons savoir le pourquoi et nous voulons savoir le comment. Jusqu'ici, la science, les sciences, ont répondu partiellement, mais de mieux en mieux, à la question du comment, laissant intacte la question du pourquoi. C'est la poésie qui prend en charge cette question, parallèlement à l'institution religieuse ou à la pensée philosophique, que dominent les mêmes préoccupations. De fait, les religions, les philosophies ont la prétention, l'ambition de répondre au problème du pourquoi. Chacune d'entre elles, dans son cadre propre, selon ses prémices et en considération de ses objectifs. La poésie répond à la question en la questionnant à son tour, allant jusqu'à dire question et réponse absolue, à la manière du grand poète allemand que vous connaissez tous, du poète allemand du XVIIe siècle, Angelus Silesius, la rose est sans pourquoi. Ce qui évidemment pose encore plus fondamentalement la question de la rose et celle de son pourquoi. Ce pourquoi, cette raison d'être, sont à la fois évidents et mystérieux, incompréhensibles. La poésie peut être un alphabet, elle peut être voix, elle peut passer de l'un à l'autre et vice-versa. Elle est pour l'essentiel ce rendez-vous en un lieu où s'annulent ses constituants pour faire place nette à sa présence intacte qui éclaire toutes les présences qu'elle a conviées à prendre place dans l'unité qu'elle instaure ou qu'elle tente d'instaurer. Le ciment de cette unité, je le rappelle, reste la langue, les mots de la langue, qui savent s'effacer ainsi pour laisser toute la place à ce surgissement vertical qui les intègre et les consume dans sa flamme. Je suis frappé que la détérioration de l'homme intérieur, je dis cela sans y croire beaucoup, pour simplifier, l'homme intérieur, je ne sais pas trop ce que c'est, mais que la détérioration advenue de l'homme en nous, autour de nous, soit accompagnée à chaque instant par la tombée en ruine de la langue. Et cela, dans la plupart des langues de la planète. Le français se parle mal, se porte mal, mais si on voyait de près l'état de l'anglais. Les mots de la poésie vont-ils disparaître dans l'incendie du poème ? Oui et non, ils sont là, toujours, mais comme vêtus d'une nouvelle identité, plus généreuse et plus génératrice, plus communicative en tout cas, je veux dire de ces mots qu'ils sont plus guillemets parlants. Mallarmé appelle cela, cette assez étrange opération lexicale, donner un sens plus pur aux mots de la tribu, vers que vous connaissez. Il veut signifier que quand cesse le sens usuel de chaque mot, commence pour lui une seconde vie où son vrai sens, lié à tous les sens, eux aussi épurés de tous les autres mots, enfin s'éclaire. C'est là une nomination heureuse et juste qui fait dire à René Char, que je rejoins sur ce point, l'éclair me dure. Je vais vous raconter un apologue tiré du Matnavi, d'un poète du XIIIe siècle que j'aime beaucoup, un poète persan, mais qui a vécu en Turquie, qui est Celaleddin Rumi, et qui est un poète que j'ai beaucoup lu et sur qui j'ai beaucoup réfléchi. C'est un poète qui donne cette définition extraordinaire de la rose. La rose est un jardin où se cachent de grands arbres. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est évident. Et c'est lui aussi qui dit, et je suis heureux de rappeler ce quatrain à Genève, et aujourd'hui, où nous assistons à tant de délires politiques autour de nous, à côté de nous, du néant est partie notre caravane porteuse d'amour. Le vin de l'union illumine éternellement notre nuit. De ce vin que n'interdit pas la religion d'amour, nos lèvres seront humectées jusqu'à l'aube du néant. Le récit de Celaleddin Rumi. Un sultan veut rafraîchir la salle du trône de son palais. Pour ce faire, il fait appel à des spécialistes. Il fait appel à des Grecs byzantins et il fait appel à des Chinois. Tous deux connus pour la précédence de leur art. Mais pour qu'ils ne soient pas tentés de se copier les uns les autres, il fait mettre entre eux une draperie. Les Grecs d'une part, les Chinois de l'autre. Les Grecs travaillent jour et nuit à une immense fresque avec des arbres, avec des oiseaux qui ont l'air de vouloir manger les raisins peints, souvenez-vous de Zeuxis, qu'il y a des rivières qu'on entendrait murmurer, couler, chanter. Il y a tout. Arrive le jour de l'inauguration. On commence par les Grecs, le sultan et sa cour regardent cette fresque et disent « c'est merveilleux, c'est admirable, on ne peut pas faire mieux. Les Chinois sont battus d'avance. » On écarte le rideau, tout le monde se tourne de l'autre côté et tout le monde dit « ah, qu'avaient fait les Chinois ?» Pendant tous ces longs mois, Ils avaient poli et repoli un miroir. Et les choses peintes par les Grecs étaient beaucoup plus belles dans la lumière du miroir, c'est-à-dire dans la lumière de l'esprit. Voilà un apologue qui pourrait être toujours présent à l'esprit quand on lit un livre de poésie. Vous savez l'importance du miroir chez Baudelaire, mais certains d'entre vous ont peut-être lu les mémoires de Jouve, de Pierre-Jean Jouve, admirable livre de sa fin, et le livre sur sa vie s'appelle, et sur son œuvre, s'appelle « En miroir ». Vous me direz si, à quel moment vous voulez que j'arrête, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je peux parfaitement arrêter pour répondre à vos questions ou aux questions du public et éclairer en miroir justement certains aspects de ma pensée en poésie. Mais est-ce que j'ai encore le temps de parler? Mettons, voyons, il est 8h10, je peux parler 10 minutes encore? Je peux? Vous le voulez? Très bien. J'ai dit que je reviendrai sur les permanences. Qu'est-ce qu'une permanence? C'est une entité dont on ne peut supposer ni imaginer que les transformations qui régissent notre être au monde, notre présence dans le monde, qu'elles soient dues, ces transformations, à la science, à l'évolution économique ou socioculturelle, puissent influer sur lui, ni le transformer radicalement. Il y a de cet être au monde des données inscrites dans le toujours, données qui font partie de notre condition, comme les yeux font partie de notre visage. Il y a ainsi ce qu'on appelle la naissance, le mystère de la naissance, l'enfance, le mystère de l'enfance, le souvenir, la cristallisation. Mieux, le cristal limpide obtenu sans cesse par le souvenir à partir de tout ce qui a été vécu. L'amour, l'éblouissement de l'amour, le sein de la jeune fille, la beauté d'un regard, le ciel, les étoiles, les animaux qui sont nos amis, les arbres qui sont nos frères, pour employer la terminologie franciscaine ou zen. Toutes ces présences limpides et obscures qui nous tiennent compagnie et qui chemine avec nous du début à la fin, la mort, elle aussi, étant une permanence. Et quelle permanence ? Le vieillissement, bien sûr, qui précède la mort, est une permanence. La souffrance que nous connaissons tous nécessairement à un moment donné de notre vie, une permanence. Tout cela fait donc partie de nos cadres obligés, tout cela que la science, que la métamorphose sociale, que les régimes politiques et économiques n'arriveront jamais à contrôler, à maîtriser ou à éliminer. Toutes ces présences insistantes en nous et autour de nous, c'est le poème qui les prend en charge. Et dans nos sociétés de plus en plus coupées de ces surgissements originels, l'honneur du poète, la mission du poète, son devoir primordial, humble et glorieux, est de les rappeler encore, ces permanences, à des contemporains oublieux et distraits, que tout pousse, selon le mode d'emploi de la vie moderne, à faire qu'ils soient oublieux et distraits. Ces permanences dont je parle disent la vérité de l'homme et des choses, avant la distraction, avant l'oubli. C'est en ce sens qu'elles sont des nudités, en ce sens que la poésie et nudité. L'acte de créer est un acte mystérieux, très mystérieux. On raconte que Michel-Ange était en train de travailler un bloc de marbre. Il était dans la dernière phase de son travail, il travaillait sous les yeux étonnés d'un garçonnet du voisinage. Et puis à un moment donné, le dernier fragment de marbre tombe et l'objet de la sculpture apparaît. Alors l'enfant qui avait suivi l'affaire dès le début demande « Dites-moi, monsieur, comment savais-tu qu'il y avait un cheval dans ce marbre ?» dit l'enfant. Il y a un cheval derrière la langue du poète qui apparaît grâce au poète et par le détour de cette anecdote, quel que soit son statut, on voit que le créateur, pour libre qu'il paraisse, est également le sujet de détermination très forte qui s'exerce sur lui à partir de l'extérieur, certes, conditions historiques, socio-culturelles, économiques notamment, pression du matériau et des outils, ou moyens, affectation ou destination de l'œuvre, et d'autres conditions aussi que je ne veux pas trop m'apesantir à rappeler. Tout cela donc fait partie de l'œuvre à venir, de ce monde intérieur du créateur, de cette caverne qui n'est pas platonicienne uniquement, loin de là, qui est aussi organique et organisatrice et qui s'est restée longuement refermée sur sa ténèbre primitive, conconnant le mûrissement projeté et créé, c'est donc convoquer une assemblée obscur, c'est pour le créateur se poser en observateur actif de ce qui le sollicite de venir jusqu'à lui, comme lui-même sollicite et par son retrait même cette venue. C'est pour le créateur se mettre en situation d'écoute, laisser monter cette voix qui parle et qu'il reconnaît parfois sans toujours la connaître. Et très souvent, cette voie déterminée est traversée par le hasard. Un hasard arrive que le créateur n'avait pas prévu et qui s'avère déterminant. Un cas que vous connaissez qui est remarquable. Vous avez tous vu au début du boulevard Raspail, en venant de Montparnasse, la statue de Balzac par Rodin. Cette espèce de phallus renversé. N'est-ce pas ? Rodin est là, une masse puissante, lourde, un phallus dressé. Et l'histoire de cette sculpture, de cette puissance qui radie cette sculpture, mérite d'être rappelée. Rodin et ses élèves, surtout, avaient chargé le plâtre originel de Rodin de chiffons de serviettes, n'est-ce pas, technique que les sculpteurs de l'époque pratiquaient. Et à un moment donné, sous le poids de cette superstructure, la sculpture a basculé en arrière et tous les élèves se sont précipités pour la remettre debout. Et Rodin a dit non, maintenez-la comme ça. Et c'est comme ça que le phallus est né. C'est étonnant. C'est étonnant, n'est-ce pas, cette longue quête, cette longue recherche, ces 1000 dessins de Rodin et le hasard au dernier instant qui vient et qui crée avec le sculpteur ou avec le poète ce qui n'était pas prévu et qui s'avère essentiel. Et je voudrais ici une ou deux citations de Hugo qui m'ont beaucoup frappé quand je les ai rencontrées. De Hugo, explorateur des profondeurs formulatrices et qui, en quelques phrases, dit à la fois cette coupure de l'homme d'avec lui-même et cet exil qu'il lui faut assumer au sein de sa création. Il écrit: il serait singulier et peut-être vrai que l'on est parfois étranger comme homme à ce que l'on a écrit comme poète. Cette idée paraîtra sans doute paradoxale au premier aperçu. C'est pourtant une question de savoir jusqu'à quel point le chant appartient à la voix et la poésie au poète. C'est déjà sous la plume de Hugo, et bien avant qu'elle ne fût énoncée, la fameuse formule de Rimbaud, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, « Je est un autre ». Et Hugo d'ajouter, mystérieusement, « Tout grand esprit fait dans sa vie deux œuvres, son œuvre de vivant et son œuvre de fantômes. » Bon, je vais m'arrêter, mais pour redire ce que j'ai essayé de dire devant vous au long de cet exposé venu de ma pratique de la poésie, bien sûr, mais aussi de ces rencontres avec les autres, avec d'autres poètes, ceux que j'ai connus, que je connais personnellement, mais aussi ceux que j'ai rencontrés dans la mémoire du temps, que finalement, la poésie, à travers tous les avatars de la vie, et même si elle est déchirée et déchirante, si elle est, comme chez Artaud, coupante, boxeuse, négatrice, que la poésie est un pari sur la vie. Sur la vie que le poète ne refuse que parce qu'elle ne tient pas assez ses promesses de surplus. Dans ce sens, Artaud, mort, refuse, dit non. La poésie est un pari sur la vie. Je voudrais finir par cet échange. J'aime beaucoup le haïku, qui est une forme de poésie elliptique et souvent qui va à l'essentiel. Une abeille qui pique et qui, de cette piqûre, vous laisse un pot de miel, tout en vous ayant blessé. Deux poètes, un qui est une de mes références, qui est Bachot, poète du XVIIe siècle, et son disciple Kikaku. Kikaku, voulant briller aux yeux du maître, énonce le haïku suivant. Une libellule, ôtez-lui les ailes, un piment rouge. Non, dit Bachot. Un piment rouge, mettez-lui des ailes, une libellule. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, merci infiniment. Je suis très heureux d'avoir été avec vous. Vraiment.